Imaginons un peu la scène, juste un instant. Un matin, il y a une décision qui tombe, validée par les plus hautes instances de l'État, et du jour au lendemain, on ampute légalement les revenus de toute une profession. Et pas qu'un peu, hein, de plus de la moitié.
Ouais, c'est pas une simple taxe, là.
Ah non, pas du tout. On parle d'une division radicale des revenus, imposée d'en haut. Et bah, c'est exactement le scénario qui frappe les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire en ce moment, avec un prix garanti qui passe soudainement de 2800 à 1200 francs CFA le kilo.
C'est fou. Et c'est une illustration redoutable de notre sujet de fond aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a très souvent cette illusion quand on parle de législation ou de politique publique, qu'il s'agit d'une science exacte, quoi.
Ouais, un truc parfait sur le papier.
Exactement. Une sorte d'ingénierie sociale parfaitement maîtrisée. On imagine naïvement qu'un gouvernement rédige un texte dans un bureau, qu'il l'adopte et que bah, la société s'y conforme immédiatement.
Genre comme un ordinateur à qui l'on injecterait une nouvelle ligne de code, en fait.
Voilà. On s'attend à une précision chirurgicale, mais la réalité, elle est tout autre.
C'est clair, parce que dès qu'on quitte la théorie pure, pour observer la réalité crue du terrain, bah, soudainement, cette belle mécanique, elle s'enraye de manière complètement spectaculaire.
Ah bah ça percute, hein.
Grave. On regarde plus un plan d'ingénieur bien net, on observe un paysage social, économique, enfin humain quoi, qui devient extrêmement complexe. La loi, elle percute le réel de plein fouet, et c'est ce choc frontal qui nous intéresse aujourd'hui.
C'est la définition même du chaos institutionnel. Faut jamais oublier qu'une loi, au départ, c'est qu'un bout de papier.
Ouais.
Elle prend vie uniquement lorsqu'elle rencontre la réalité citoyenne. Et c'est exactement à ce point d'impact précis que les véritables ondes de choc se manifestent, tu vois, avec des répercussions que le législateur n'avait souvent même pas anticipées.
Bah oui. Et pour explorer ce phénomène, notre source aujourd'hui, elle est absolument passionnante. Il s'agit d'une édition du grand journal de la station Radio Tam Tam, africaine.
Une excellente source.
Ouais, c'est un bulletin d'environ 10 minutes, très, très dense, qui est daté du 31 mars 2026 et qui est diffusé depuis Besançon, en France.
C'est vraiment un condensé d'actualité mondiale, présenté avec une ligne éditoriale qui se veut très directe.
Très sans filtre, ouais.
Voilà, très indépendante. Il dresse un tableau vraiment sans concession des rapports de force à travers le monde, et c'est très riche.
La quantité d'informations qu'ils arrivent à traiter en si peu de temps, c'est juste vertigineux. Enfin, je veux dire, on passe d'une crise agricole majeure en Afrique de l'Ouest à des étudiants qui assemblent des drones au Zimbabwe.
Le grand écart.
Carrément. Pour ensuite enchaîner sur des blocages sociaux sur le périph' parisien et des tensions géopolitiques dans le détroit d'Ormuz.
Y a de quoi faire.
C'est ça. Mais attention, pour ceux qui nous écoutent, notre mission pour ce décryptage, c'est pas de faire un simple résumé de l'actualité. Pas du tout.
Non. L'idée, c'est d'aller plus loin.
Exactement. On va décrypter spécifiquement les conséquences directes des réformes politiques et institutionnelles annoncées. Comment une décision venue d'en haut divise une nation, transforme l'école ou paralyse une économie. Bon, décortiquerons un peu tout ça. Et je propose qu'on plonge directement dans le cas peut-être le plus polarisant rapporté par la station, le Gabon.
Ouais, c'est un point de départ incontournable. Ce cas-là, il illustre à la perfection comment les mots choisis par le législateur, même les plus brefs, hein, peuvent littéralement redessiner les frontières identitaires d'une société tout entière.
C'est clair. Au Gabon, il y a une réforme du Code de la nationalité qui vient de créer une véritable onde de choc. C'est une ordonnance qui date de février 2026. Et le premier détail qui frappe, en fait, c'est que ce texte modifiant l'identité même du citoyen...
Il a été passé en force, pratiquement.
Bah oui, adopté sans aucun débat parlementaire.
C'est déjà problématique en soi.
Totalement. Mais le cœur du problème, le terme spécifique qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est la notion d'ascendance autochtone.
Ouais. Et ce qui est fascinant ici, c'est d'analyser le mécanisme juridique derrière ce terme-là. Le juriste Ali Akbar Onenga Yobege, il qualifie ce texte de juridiquement fragile. Il faut vraiment comprendre pourquoi il dit ça.
Ah oui, c'est pas juste une opinion, il y a un vrai souci technique.
Exactement. Imposer la notion d'ascendance autochtone dans un code de la nationalité, ça revient à demander à une administration de vérifier l'invérifiable, quoi.
Bah oui, c'est impossible.
Comment, d'un point de vue purement factuel, un citoyen peut-il prouver de manière irréfutable cette ascendance sur plusieurs générations ?
Surtout dans des régions où l'état civil, il n'a pas toujours été documenté de manière ininterrompue depuis des siècles, quoi.
Voilà, c'est matériellement absurde, en fait.
Tu sais à quoi ça me fait penser ? C'est un peu comme si on changeait les règles d'adhésion d'un club très fermé. Genre, la famille de quelqu'un en est membre depuis des générations, ils y vivent, ils y contribuent.
Mmh.
Et soudainement, la direction exige de tous les membres qu'ils fournissent un reçu original vieux de 2 siècles, imprimé sur du papier officiel que absolument personne n'a jamais possédé.
C'est exactement ça.
C'est juste un filtre conçu pour être impossible à passer pour une grande partie des gens.
L'analogie est très juste. Et les conséquences de cette impossibilité administrative, qu'elles soient voulues ou non d'ailleurs, elles sont désastreuses.
On parle pas juste de la couleur d'un passeport, là. On parle de la création d'une citoyenneté à 2 vitesses. À cause d'une incapacité bureaucratique à prouver cette fameuse ascendance, selon les nouveaux critères obscurs de l'État,
des citoyens vont se retrouver exclus.
C'est ça. Exclus de fonctions majeures au sein de leur propre pays, voire exclus de droits fondamentaux. C'est un précédent très dangereux. Au lieu de consolider la nation, la loi devient un instrument de tri, un filtre d'exclusion légale qui s'appuie sur une sorte de fiction administrative, quoi.
C'est effarant. Effarant de voir comment quelques syllabes dans un code peuvent légalement déclasser une partie de la population. Mais ce qui rend l'analyse de ce journal de Radio Tom Tam si riche, c'est le contraste immédiat avec les politiques d'un autre pays.
Ouais, la Gambie.
C'est ça. Si le Gabon utilise une réforme identitaire comme un mur ininfranchissable, la Gambie, de son côté, l'utilise plutôt comme un pont.
La transition est saisissante, en effet. En Gambie, le gouvernement a acté une réforme éducative qui introduit 7 langues locales directement dans l'enseignement primaire.
7 langues locales.
Ouais. On aborde la question de l'identité sous un angle diamétralement opposé.
Mais au-delà du symbole politique, je me demande comment ça fonctionne concrètement sur le terrain. Parce que, enfin, former des profs à enseigner dans 7 langues différentes à travers le pays, c'est un cauchemar logistique absolu. Pourquoi un État s'infligerait une telle complexité ?
Parce que le mécanisme cognitif de l'apprentissage l'exige, en fait. Il faut comprendre la violence, presque, de l'ancien système.
Comment ça ?
Imagine un enfant qui arrive à l'école primaire. Il doit apprendre les bases. La lecture, l'écriture, les maths. Mais il doit le faire dans une langue officielle, souvent héritée de la colonisation, qui n'est pas du tout la langue qu'il parle à la maison.
Ah ouais, le cerveau, il doit saturer.
C'est un double effort colossal. Il doit décoder un savoir complexe, tu vois, tout en déchiffrant une langue qui lui est étrangère.
C'est genre essayer d'apprendre la physique quantique dans un manuel rédigé en suédois, alors que tu viens à peine de commencer tes cours de suédois.
Exactement. C'est voué à l'échec pour beaucoup. Donc en reconnectant l'école aux langues maternelles, la conséquence attendue de cette réforme gambienne, elle est spectaculaire sur le plan de l'assimilation.
Bah oui, tu lèves la barrière tout de suite ?
On lève la barrière linguistique immédiate. L'enfant, il s'approprie les concepts logiques dans sa langue de confort. L'identité culturelle, c'est plus un frein qu'il faut réprimer, ça devient vraiment le vecteur principal de la qualité de l'éducation.
C'est super intéressant. On voit donc bien que la façon dont l'État manipule l'identité, que ce soit par l'exclusion au Gabon ou par l'inclusion scolaire en Gambie, ça produit des effets vraiment sismiques.
Tout à fait.
Mais ces ondes de choc, elles s'arrêtent évidemment pas aux frontières de l'identité. Elles touchent aussi hyper violemment l'économie. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parlons un peu de la Côte d'Ivoire et revenons sur ces fameux chiffres glaçants que j'évoquais tout au début.
Ah oui, le cacao. C'est indéniablement l'un des points de friction les plus explosifs du moment. La Côte d'Ivoire domine le marché mondial, hein, c'est le premier producteur. Et là, la filière subit une onde de choc sans précédent.
Les faits qui sont rapportés dans le journal sont radicaux. L'État a fixé unilatéralement le nouveau prix d'achat aux producteurs. On passe d'une garantie à 2800 francs CFA le kilo.
Ce qui était déjà un prix de soutien.
Ouais, à seulement 1200 francs CFA.
Mais comment on justifie un effondrement pareil ? Je veux dire, on ne parle pas d'une baisse des cours de la bourse à d'autres bouts du monde, on parle d'une décision d'État qui fixe le revenu directement au niveau local.
Pour comprendre, il faut se pencher sur le mécanisme de fixation des prix, en fait.
Comment ça marche ? Dans beaucoup de pays producteurs, l'État, souvent via une sorte de conseil de stabilisation, il fixe un prix d'achat pour lisser les revenus des agriculteurs.
Pour les protéger des fluctuations du marché mondial, en gros.
Exactement. L'État achète à un prix fixe, et revend sur le marché international. Mais le problème, c'est quand l'État décide de s'accaparer une plus grande marge, ou quand il ajuste brutalement ce tarif pour combler d'autres déficits structurels.
Ah, donc il se selle au passage.
Voilà. Et la baisse, elle est répercutée directement sur la base de la pyramide.
Sur les paysans.
C'est un monopole d'achat, du coup. L'agriculteur, il a nulle part d'autre où vendre sa production légalement, c'est ça ?
C'est exactement ça.
Et il est coincé.
Mais attends, je pousse la réflexion. Est-ce qu'une réforme macroéconomique imposée d'en haut, avec une telle brutalité, je veux dire, divisée par plus de 2 un salaire, est-ce que ça peut véritablement être appliqué sur le terrain sans provoquer l'effondrement total immédiat de toute la chaîne logistique.
Bah, la réalité prouve que non, hein. La conséquence immédiate, c'est le bras de fer. Face à une perte de pouvoir d'achat aussi dévastatrice, la réaction des producteurs, c'est pas de faire circuler des pétitions en ligne.
Ah bah non, ils doivent être fous de rage.
C'est l'action physique. Dans le journal, ils rapportent qu'ils menacent de bloquer totalement l'acheminement des fèves vers le port d'Abidjan.
Le blocage.
Voilà. L'État possède le monopole du prix, ok. Mais les paysans, eux, ils possèdent le monopole physique de la matière première.
Et s'ils livrent pas?
S'ils ne récoltent pas ou qu'ils livrent pas, c'est l'économie entière du pays qui s'asphyxie. C'est un rapport de force terrifiant.
C'est dingue. Et pendant que la Côte d'Ivoire affronte cette crise de l'exportation sur son propre sol, le journal nous apprend que le Kenya, de son côté, tente de résoudre un problème économique structurel face à un géant extérieur, la Chine.
Ouais, un autre cas d'école très intéressant. Le Kenya engagé dans une quête vraiment vitale pour retrouver sa souveraineté économique. La situation de départ, c'est un déficit commercial colossal avec Pékin.
Ah ouais, on parle de combien?
Le bulletin dévalue à près de 4 milliards de dollars.
4 milliards, ah oui. C'est un gouffre.
Et la conséquence de ce déséquilibre, c'est une dépendance totale qui vide le pays de ses devises, tout simplement.
Mais comment ça fonctionne, ce déficit au quotidien? Parce que 4 milliards, c'est un chiffre abstrait sur un tableau noir. Comment ça se traduit?
Le mécanisme, c'est celui de la fuite de la valeur ajoutée.
C'est-à-dire?
Le Kenya, comme beaucoup d'autres nations d'ailleurs, exporte des matières premières brutes à des prix très bas vers la Chine.
D'accord.
Ensuite, ces matières sont transformées là-bas, dans des usines chinoises. Puis, le Kenya rachète ces mêmes produits finis, manufacturés, à des prix extrêmement élevés.
Oh là là! Mais c'est l'aberration économique absolue!
C'est le piège classique.
Enfin, imaginez un instant. C'est comme un paysan qui vendrait ses œufs, son lait et sa farine pour quelques centimes à une boulangerie étrangère et qui serait ensuite contraint de racheter le gâteau terminé pour 50 euros.
Voilà.
Forcément, on s'appauvrit mathématiquement à chaque transaction.
L'image est frappante et tragiquement exacte. Et c'est justement pour contrer ce mécanisme que les experts recommandent des réformes radicales au Kenya. Investir massivement dans la valeur ajoutée et transformer localement.
Pour garder l'argent dans le pays.
C'est l'objectif. La conséquence espérée de ces réformes, c'est de garder cette fameuse valeur ajoutée sur le territoire kényan en construisant leurs propres usines. Ils réduisent la dépendance aux importations, ils créent de l'emploi et ils rééquilibrent la balance commerciale.
Ce qui nous amène à une observation plus globale, en fait. Que l'on analyse la colère de l'agriculteur ivoirien ou la restructuration industrielle kényenne, on constate que le décalage entre la décision macroéconomique et la réalité du quotidien, ça génère une immense frustration sociale.
Ah oui, la tension, elle est palpable partout.
Et cette tension, figure-toi qu'on la retrouve illustrée de manière super spectaculaire, bien au-delà du continent africain. Regardons le climat social en France tel qu'il est décrit dans ce même bulletin.
Oui, le segment consacré à la France, il met en lumière un paradoxe institutionnel presque absurde.
Totalement absurde même.
D'un côté, on a une démonstration de consensus politique parfait, et de l'autre, une fracture sociale qui échappe à tout contrôle.
Commençons par ce qui fonctionne sur le papier. Il parle de l'adoption à l'unanimité de l'Assemblée d'une loi interdisant les sucres ajoutés dans l'alimentation des nourrissons.
Une très bonne chose.
C'est propre, c'est une réforme de santé publique évidente, validée sans la moindre opposition. Tout le monde est d'accord pour protéger les bébés.
Mais, parce qu'il y a un mais. Immédiatement après cette belle image d'une République unie, la réalité de la rue reprend le dessus. Le climat rapporté par Radio Cantam est carrément explosif.
Ouais, l'ambiance a l'air super lourde.
D'abord par des tensions identitaires et politiques. Il parle de propos racistes visant le maire de la ville de Saint-Denis, exacerbé par un silence officiel de l'Élysée que souligne la rédaction du journal.
Ce qui n'arrange rien.
Le silence politique face à ce genre d'attaque, ça a pour conséquence de valider implicitement un climat de tension. Ça laisse pourrir la situation.
Et par-dessus ce malaise politique profond vient se greffer l'urgence économique absolue. La flambée des prix du carburant.
Encore une question de pouvoir d'achat.
Et quelle est la mécanique de la réponse sociale? Elle est physique, comme en Côte d'Ivoire.
Ouais.
Des transporteurs routiers qui bloquent le périphérique parisien. C'est le grand paradoxe de notre époque, c'est vertigineux.
C'est-à-dire?
Le législateur contemporain, il est capable de s'accorder dans l'heure, à l'unanimité, pour protéger la santé des bébés dans 20 ans, mais il se retrouve totalement paralysé, politiquement muet, face aux adultes qui bloquent le périphérique aujourd'hui même, parce qu'ils n'ont plus de quoi remplir leur réservoir pour aller bosser.
C'est très bien résumé. Et ça montre les limites de l'action publique. Légiférer sur le sucre, c'est gérer le temps long avec une loi technique. Ça fâche personne.
C'est facile.
Mais faire face à la flambée du coût de la vie, ça exige une réponse politique immédiate, douloureuse, que l'État peine à formuler. Et la conséquence directe de cette inaction, c'est que la rue dicte le tempo.
Le blocage logistique remplace le débat parlementaire?
Exactement. Quand l'institution ne répond plus, c'est le rapport de force brut qui prend le relais.
Et ce besoin désespéré de garder la face, en fait, face au chaos, on le retrouve aussi dans la gestion des institutions panafricaines citées dans le journal. D'un côté, on a l'image d'un pouvoir qui veut s'afficher hyper solide, comme en Centrafrique.
Oui, avec cette fameuse cérémonie officielle à Bangui qui acte le début du troisième mandat du président Faustin Archange Touadéra.
C'est le symbole d'une continuité étatique, quoi.
C'est ça, une institution qui se met en scène avec faste pour asseoir sa légitimité et montrer que tout est sous contrôle.
Sauf que, juste à côté, on nous parle d'une autre institution gigantesque qui, elle, prend l'eau de toutes parts. La Confédération africaine de football, la CAF.
Ah oui, là, c'est le naufrage.
On parle même plus de sport à ce niveau-là. On parle d'une crise de gouvernance majeure, après ce que le bulletin appelle texto le fiasco de la CAN 2025.
Et c'est intéressant d'observer les réformes d'urgence que la CAF est obligée d'annoncer pour éteindre l'incendie médiatique.
Ils ont annoncé quoi exactement ?
Des trucs énormes. Professionnalisation de l'arbitrage, renforcement de la transparence, lutte contre la corruption.
Devant le tribunal arbitral du sport. Enfin, je veux dire, quand une institution en est réduite à devoir faire des communiqués de presse officiels pour promettre à tout le monde qu'elle va devenir transparente, n'est-ce pas la preuve définitive que la confiance est juste morte ?
Absolument, c'est l'aveu d'un échec systémique. Les annonces de réformes deviennent ici de simples rustines pour tenter de colmater un système décrédibilisé.
Du coup, qu'il s'agisse des transporteurs français qui paralysent Paris à cause du carburant ou de la CAF engluée dans des scandales d'arbitrage, le constat est strictement identique en fait. Les institutions courent après un chaos qu'elles ne parviennent plus du tout à réguler.
Et ce chaos, il s'étend à l'échelle de la planète entière. Ça touche toute la géopolitique mondiale.
Alors, la grande question, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Comment ces décisions locales ou ces crises s'intègrent-elles dans le grand échiquier mondial ? Prenons un événement a priori très éloigné du terrain qui est cité à la fin du journal, le vote historique de l'Angola aux Nations Unies.
Oui.
Si l'on relie cela à une perspective plus large, la diplomatie mémorielle joue un rôle clé. L'Angola a porté une résolution à l'ONU pour faire reconnaître l'esclavage et la traite transatlantique comme des crimes parmi les plus graves contre l'humanité.
Et ça a été adopté.
Adopté à une très large majorité, oui. Alors là, je vais volontairement me faire l'avocat du diable seconde.
Vas-y.
Une résolution à l'ONU, ok, c'est très beau, ça fait une belle photo de famille pour la presse, mais au final, c'est quoi ? C'est qu'un bout de papier signé dans une grande salle de conférence à New York. Concrètement, est-ce que ça modifie la moindre dynamique sur le terrain pour les gens ?
Alors, c'est une réaction normale. Mais c'est une erreur de sous-estimer la force du droit international coutumier.
Ah oui !
La mécanique est beaucoup plus subtile que ça. Un vote à l'ONU, ça change pas le prix de la baguette le lendemain matin. C'est vrai.
On est d'accord.
Mais en actant formellement ces faits comme des crimes contre l'humanité, sur le plan légal international, on modifie la base légale des interactions diplomatiques futures.
Ah, ça ouvre des portes juridiques.
Exactement. La conséquence, c'est que cela crée un levier juridique hyper puissant pour des nations du Sud afin d'exiger, par exemple, des négociations sur l'annulation de la dette ou même de justifier des demandes de réparation économique dans des tribunaux internationaux.
Ah ouais, d'accord. Donc ça permet d'exercer une vraie pression morale et commerciale sur les anciennes puissances coloniales.
Voilà. Les mots à ce niveau-là, ça devient des armes géopolitiques à retardement.
Donc le symbole prépare le terrain pour l'économie future. C'est fascinant. Mais le contraste est d'autant plus brillant avec l'action concrète, immédiate, rapportée sur le terrain. Loin des couloirs feutrés de l'ONU, on découvre ce qui se passe au Zimbabwe ou au Burkina Faso en ce moment.
Et là, c'est l'innovation et la sécurité assumées à l'échelle purement locale. Au Zimbabwe, le journal explique qu'une université ne se contente plus de former des théoriciens. Elle lance l'assemblage local de drones.
On sort des beaux discours diplomatiques pour entrer dans l'ingénierie appliquée, quoi.
C'est ça, on fabrique.
Et pas pour faire des gadgets technologiques pour s'amuser, hein. On parle d'outils critiques pour de l'agriculture de précision, pour optimiser les rendements face au changement climatique, de la surveillance pour la gestion des catastrophes.
C'est de l'appropriation technologique pure. C'est répondre à un besoin local par une solution locale.
Et dans la même logique de réponse souveraine locale, le Flash Info nous apprend qu'au Burkina Faso, en dépit d'un contexte national ultra tendu, on le sait, hein, la police de la ville de Léo réussit à démanteler un réseau criminel et à récupérer des biens volés.
Ouais, ces exemples-là très terre à terre Ils mettent en lumière les fonctions régaliennes de base, en fait. La capacité d'un pays à assurer la sécurité physique de sa population au niveau local, ou sa capacité à produire lui-même la technologie dont il a besoin pour nourrir ses habitants.
Surtout quand on met cette résilience locale en perspective avec la folie absolue des relations internationales qui clôturent le bulletin Carnat.
Ah bah la macro-géopolitique, ça ressemble à une poudrière constante.
Mais c'est clair, le journal enchaîne sur l'Iran qui décide d'imposer un péage dans le détroit d'Ormuz, des menaces de Donald Trump sur la circulation pétrolière, une affaire d'espionnage digne de la guerre froide entre Londres et Moscou.
Et n'oublie pas la diplomatie du soft power.
Ah oui, le pétrolier humanitaire russe qui débarque tranquille à Cuba. C'est le chaos.
C'est un tableau de dépendance croisée qui est extrêmement volatile. Une simple décision unilatérale de l'Iran sur un détroit, ça peut paralyser la moitié de l'économie mondiale.
Et c'est là que notre décryptage prend tout son sens, je trouve. Quand on voit l'Iran jouer avec le robinet du commerce mondial, et qu'en parallèle, des étudiants zimbabwéens construisent de leurs propres mains des drones pour irriguer leurs propres champs,
Le contraste est fort.
La question s'impose d'elle-même, la véritable souveraineté aujourd'hui. Est-ce que c'est pas tout simplement d'abandonner l'illusion de maîtriser cette géopolitique chaotique pour se concentrer sur la fabrication de ses propres outils locaux?
C'est une conclusion très pragmatique et très vraie. L'hyperdépendance aux flux mondiaux, qu'il s'agisse du commerce kényan avec la Chine ou de la dépendance au pétrole du Golfe pour la France, ça maintient les États dans une vulnérabilité permanente.
Constante, ouais.
La seule véritable résilience face aux décisions absurdes des autres, c'est effectivement la capacité de production et d'action locale.
Ce qui nous ramène parfaitement à l'essence de notre exploration d'aujourd'hui. On a parcouru les ondes de cette édition de Radio Tantam Africa, et le fil conducteur, il est juste implacable.
En effet, si l'on doit synthétiser un peu les mécanismes qu'on a vus à l'œuvre aujourd'hui, on retient qu'une simple réforme politique ou économique, c'est jamais un acte neutre confiné dans les bureaux d'un ministère.
Non, jamais.
L'ajout du mot « autochtone » sur des papiers administratifs au Gabon, l'autorisation de parler sa langue maternelle dans une école gambienne, ou la division brutale par deux du prix du cacao imposé par l'État ivoirien.
Tout ça a un impact réel.
Ça déclenche systématiquement des répercussions immédiates, sismiques, sur la cohésion d'une nation tout entière.
Et peu importe la latitude, cette analyse démontre à quel point la vie quotidienne, la capacité à payer un plein d'essence sur le périph', le droit de cultiver ses terres sans faire faillite, et même le droit d'exister légalement dans son propre pays, bah, tout ça est accroché à la pointe du stylo des législateurs.
C'est une grande responsabilité.
Et quand ce stylo tremble, ou pire, quand il rédige des textes complètement déconnectés de la réalité du terrain, bah, c'est la société civile qui encaisse le choc de plein fouet.
Le législateur propose dans l'abstrait, mais c'est invariablement le citoyen qui absorbe la violence concrète de la loi.
Et d'ailleurs, sur cette notion très précise d'encaisser la réalité, il y a un choix éditorial dans ce bulletin qu'on ne peut absolument pas ignorer pour finir. À la toute fin du journal, le ton de la présentation bascule complètement.
Oui, j'ai remarqué ça aussi.
Le journaliste abandonne la neutralité de l'information et il délivre une injonction extrêmement directe, genre droit dans les yeux à ses auditeurs, personne ne viendra te sauver, prends ta vie en main, travaille, résiste, construis. Ta réussite dépend de ta discipline.
C'est un message d'empowerment individuel très fort. Une posture presque libertarienne fascinante.
Et c'est diffusé sciemment, juste après avoir énuméré, pendant 10 minutes, toutes les faillites et les blocages des systèmes institutionnels mondiaux.
C'est pas un hasard de montage.
Ah ben non. On avait commencé cette plongée en comparant la loi à une mécanique de précision. On espérait y trouver de l'ordre. Au final, on n'y a trouvé que des chocs et de la paralysie institutionnelle.
Partout.
Du coup, c'est passionnant d'analyser la posture de cette radio. Si l'on observe toutes ces réformes venues d'en haut qui échouent en Côte d'Ivoire, qui paralysent l'économie en France ou qui créent des exclusions artificielles au Gabon, bah ce manifeste final diffusé sur les ondes n'est-il pas la réflexion la plus cynique, mais peut-être la plus réaliste de notre époque?
La question mérite d'être posée.
En d'autres termes, si les États légifèrent si souvent à côté de la plaque, le citoyen est-il définitivement condamné à être son propre et unique sauveur? Eh bien, c'est une question de fond que l'on laisse à tous ceux qui nous écoutent le soin de méditer.